Toutes les musiques et les découvertes sont sur Calade, ma radio.
Calade Jazz.
Bienvenue dans Calade Jazz.
L'émission de tous les jazz.
Avec
Julien
et Richard. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Calade Jazz. Je suis avec Julien. Bonjour Julien.
Salut Richard, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer le début d'une série d'émissions sur l'évolution du jazz depuis ses origines à nos jours. Quand on pense au jazz, on imagine souvent un style musical des temps anciens où l'excellence côtoie le rythme et où l'improvisation a toute sa place. Mais d'où vient le jazz exactement et comment ce genre a-t-il évolué avec les siècles ? C'est justement la question à laquelle nous allons tenter de répondre sur Calade Jazz afin de dresser une petite chronologie du jazz, de ses fondations à son évolution. L'histoire du jazz, c'est une épopée musicale en plusieurs étapes. Avant toute chose, sachez que le jazz, c'est avant tout l'histoire d'un mariage, celui d'un métissage unique entre les coutumes européennes et les traditions africaines. Né à la fin du XIXe siècle dans le sud des États-Unis, le jazz est l'alliance parfaite entre le blues, dont les origines sont aussi floues que celles du jazz, des work songs, c'est les chants d'esclaves que l'on se chantait dans les champs pour s'apporter du courage, et des negro spirituals, c'est les chants d'esclaves cette fois agrémentés de textes religieux entendus chez leur maître. Remontons un peu dans le temps. Vous l'aurez compris, le jazz se nourrit de multiples influences et prend surtout ses racines auprès du peuple africain, déraciné de sa terre natale et condamné au travail forcé. Face à leurs souffrances, ils sont allés chercher du réconfort dans leur tradition musicale, ouvrant la porte à un nouveau genre qui allait révolutionner le monde de la musique. Il est le fruit du métissage entre la culture du peuple noir américain issu de l'esclavage et de la culture européenne importée par les colons français, allemands, espagnols et irlandais, autour des danses comme la polka, le quadrille, les fanfares, les cirques, le salon, c'est le piano par exemple, les marches et même les chants d'église. Mais l'une des principales influences de la racine du jazz, c'est le blues, une autre musique noire rurale née à la fin du XVIIIe siècle et qui évoluait avec la migration des populations noires vers les grandes agglomérations à la fin du XIXe siècle. Ce sont des petites fanfares qui vont se créer à la fin de la guerre civile, à base d'instruments cuivre et batterie, qui deviennent les premiers jazz bands et utilisent fréquemment la structure et le rythme des marches. Un événement important dans le développement du jazz est le durcissement des lois Jim Crow sur la ségrégation raciale en Louisiane dans les années 1890. Les musiciens professionnels de couleur ne sont plus alors autorisés à se produire en compagnie de musiciens blancs. Après l'abolition de l'esclavage, les Afro-Américains ont toutefois, autrefois rattachés au chant, ont l'opportunité d'apprendre des instruments du vieux continent comme le piano et le violon, et des opportunités d'emploi s'ouvrent à eux. Mais si l'esclavage n'est plus, la ségrégation prend le relais et ils sont condamnés à des spectacles de bas étage. C'est dans ce contexte que va naître le ragtime, musique syncopée qui fera danser les Louisianais avant de se répandre un peu partout dans le pays. Je propose d'écouter un petit morceau, ragtime, voilà, l'ancêtre du jazz, et un morceau ultra connu. Alors désolé pour la qualité du son, hein, c'est ancien.
C'est très ancien.
Thank you.
Voilà, c'était The Entertainer. Vous avez reconnu la version originale composée par Scott Joplin en 1902. C'est effectivement la célèbre musique du film L'Arnaque, arrangée par Marvin Hamlisch après. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu différente.
Ouais.
Je sais pas si t'as remarqué, Julien. Bon, l'enregistrement n'est pas tout jeune non plus, hein, on est d'accord. Alors Scott Joplin, c'est quelqu'un qui va révolutionner la musique à partir du 1899 avec le ragtime, qui va évoluer vers le jazz. Et on va y arriver assez vite, donc je propose d'écouter le premier morceau enregistré qui annonce la naissance officielle du jazz, parce que c'est effectivement le premier enregistrement d'un disque de jazz le 26 février 1917. C'est Livery Stable Blues du Dixieland Jazz Band. Oui, j'ai bien dit Jazz Band,
je vois ça, ouais.
Parce que les deux Z ne les remplaceront qu'un peu plus tard.
D'accord.
Alors, c'est réuni un cornettiste, un pianiste, un batteur, un clarinettiste et un tromboniste, tous blancs. Suite aux lois, on ne pouvait pas se mélanger. Le succès est en rendez-vous avec plus d'un million et demi d'exemplaires vendus à l'époque. Énorme. On écoute Livery Stable Blues. C'était Livery Stable Blues du Dixieland Jazz Band. Mais on ne peut pas continuer sans parler d'un des pères du jazz, qui est Buddy Bolden. Alors, il était né en 1877 et mort en 1931, à qui on prête en effet d'avoir été le premier à fusionner le ragtime, le blues oral, le negro spiritual, et cela avant 1917. Il est en général considéré comme le premier chef de groupe orchestral qui improvise sa musique. Une musique connue plus tard sous le nom de jazz, bien sûr. Il est le premier king de la trompette à la Nouvelle-Orléans. Avec ce style nouveau, Buddy Bolden bouleverse l'organisation traditionnelle des dance bands. Les instruments à cordes deviennent la section rythmique, tandis que les cuivres passent au premier rang. Cette mise en avant des cuivres et cette liberté introduite par l'improvisation offrent à Buddy Bolden la possibilité d'exposer un jeu de cornet et de cor non moins exaltant, clair et grand ouvert. C'est pourquoi la création du Bolden Band est regardée comme l'acte fondateur de cette musique qui sera plus tard appelée le jazz. Buddy Bolden et son groupe deviennent ainsi l'orchestre le plus apprécié et le plus sulfureux de la Nouvelle-Orléans. Appréciés, ils sont réclamés dans les fameuses parades de la ville ainsi que dans ses plus grandes salles. Malheureusement, en 1907, sa santé mentale se dégrade et il est interné dans un établissement spécialisé duquel il ne sortira plus. Mais son héritage, ce sont les nombreux disciples et émules qu'il a fait, c'est-à-dire ces musiciens qui formeront à leur tour leur propre bande à la Nouvelle-Orléans, puis dans l'ensemble des États-Unis pour donner corps au jazz Nouvelle-Orléans, ou Dixieland, premier épisode de l'épopée du jazz. On rapporte même que Sidney Bechet, encore enfant, a joué un temps dans le mythique Bolden Band. Mais ce sont en fait tous les pionniers du jazz qui se sont inspirés de son jeu. Donc on va écouter, là c'est toi Julien qui a trouvé un morceau fondamental que tu as choisi.
Oui, alors un morceau qui s'appelle Deeper Moose Blues et qui est joué par le King Oliver Creole Jazz Band. C'est vraiment un des premiers groupes de jazz qui commence à être connu. Hein. King Oliver, c'était un compositeur. Et je ne sais plus quel instrument il jouait, je suis désolé, je n'ai pas noté, je suis vraiment mauvais. Donc c'est un morceau vraiment fondamental pour comprendre l'évolution du jazz, et c'est un enregistrement qui a vraiment marqué l'histoire du jazz. Ce morceau a été enregistré en 1923 à Richmond, en Indiana, par le Creole Jazz Band de King Oliver, avec un tout jeune trompettiste, et même pas trompettiste, parce qu'à cette époque-là, il faisait du cornet. Il s'appelle Louis Armstrong, donc au second cornet. Donc King Oliver, je sais très bien ce qu'il fait comme instrument, il fait de la trompette, bien sûr. Donc c'est un blues collectif typique du style, comme tu disais, de la Nouvelle-Orléans, où les instruments dialoguent entre cornet, clarinette, trombone. Le thème est simple, mais l'improvisation collective et les solos sont révolutionnaires pour l'époque. Donc du coup, on écoute Deeper Moose Blues. Ça a été enregistré en 1923.
C'était Deeper Moose Blues. Eh bien, vibrante de vie et de musique, la Nouvelle-Orléans est le théâtre de la création d'un nouveau genre, le jazz. C'est à Storyville, quartier chaud de la ville, qui prend finalement vie entre les cuivres et les percussions des fanfares et les pianos et batteries des groupes en club. Mais la star, c'est surtout la trompette, qui joue la mélodie principale, tandis que les autres cuivres improvisent autour d'elle et que les cordes s'occupent du rythme. Mais le début de la Première Guerre mondiale va tout changer. Alors que la Nouvelle-Orléans devient un port de guerre et que la musique n'est plus le centre d'intérêt principal, les musiciens vont chercher du travail ailleurs. À cette époque, l'air est plus léger, il souffle un vent de liberté et d'extravagance sur les États-Unis. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que c'est aussi à cette période que la prohibition est instaurée. Mais les Américains sont prêts à braver tous les interdits pour boire de l'alcool. Cet affranchissement des lois favorise ainsi l'expansion du jazz, ce qui lui donne une réputation presque sulfureuse. Et oui, à l'époque, les jazzmen, ce sont des bad boys. On juge le jazz immoral. Voilà. Alors, on va continuer avec un jazz New Orleans.
Ouais,
c'était quelque chose.
Ouais, je vais rajouter un peu un truc parce que tu parlais de la prohibition.
On va y arriver.
Al Capone était un grand,
fan de jazz.
Ouais, il subventionnait beaucoup des jazzmen en fait.
Ah d'accord.
Il adorait ça. Donc voilà.
Bon, mais c'est peut-être pas la référence non plus.
Oui, Capone, mais voilà, bon, c'est lui qui avait l'argent à l'époque.
Voilà, bien d'accord.
Oui, on va. Oui, j'ai choisi un morceau de Sidney Bechet. À l'époque, il jouait pas. C'était pas un groupe sous son nom. Le morceau s'appelle Wildcat Blues. Il est joué donc dans le groupe qui s'appelle le Clarence Williams 5. Le morceau a été aussi enregistré en 1923. Et le Clarence Williams Blues 5, même on peut rajouter blues, est l'un des premiers groupes à capturer l'énergie du jazz de la Nouvelle-Orléans en studio. Un blues aussi collectif, typique de l'époque où Bechet, clarinette soprano, domine avec son saut puissant, expressif et plein de vibrato, presque, on dirait presque une voix humaine. C'est un exemple parfait du jazz New Orleans avec une intensité qui annonce peut-être déjà le swing, voire le bebop. Wildcat Blues.
Voilà, c'était Wildcat Blues. Nous sommes toujours dans votre émission Cala Jazz et nous parlons de l'évolution du jazz, de son origine à nos jours. Alors, on pourrait croire que le jazz est né d'un claquement de doigts dans un club enfumé de la Nouvelle-Orléans. Mais la vérité est toujours plus nuancée. À l'aube du XXe siècle, sur les rives du Mississippi, c'est un fleuve d'influences qui se mêle. Chants de travail afro-américains, spiritual, blues rural, folklore créole et un zeste de ragtime importé de Saint-Louis. Le jazz est une alchimie. Ce mot apparu en 1912 dans la presse californienne selon les archives du périodique San Francisco Bulletin ne prendra tout son sens musical qu'avec les premières fanfares descendues dans les rues de Storyville. Ce sont ces brass bands bardés de cuivre et de rythmes syncopés qui donneront le la au jazz originel. Donc, comme on l'a dit en 1917, toute première trace discographique arrive, l'original Dixieland Jazz Band. C'est un coup de tonnerre culturel. Pourtant, le blues et ses figures comme Mammy Smith, première chanteuse afro-américaine à enregistrer un disque, Crazy Blues en 1920, irriguent déjà les veines de cette musique en devenir. Et là, Julien, tu vas nous trouver une petite musique audacieuse pour l'époque.
Audacieuse, tu trouves ?
Oui, il me semble. Oui.
Ouais, on va écouter un blues lent et groovy. Avec une structure en 12 mesures, typique du blues, mais enrichie par des paroles un peu provocantes, parce qu'on va écouter un peu de jazz vocal. Donc, une chanteuse qui s'appelle Bessie Smith. Elle dit « Si je bois du gin ou si je me promène la nuit, ça ne regarde personne. » Ah, presque féministe, hein, la chanson qui a été enregistrée en 1923 par Bessie Smith. Et elle défend son indépendance, un thème rare pour une femme noire dans les années 1920. Une audace qui a marqué l'histoire du jazz et du blues. Au piano, on retrouve Clarence Williams. Et Bessie Smith a enregistré ce morceau en une seule prise, sans partition, sans rien. Elle disait « Le blues, ça vient du cœur, pas d'une feuille de papier ». Une philosophie qui a inspiré des musiciens comme Charlie Parker, pour qui l'émotion primait sur la technique pure. Donc le morceau s'appelle « Taint nobody business if I do ». Nobody's business if I do.
c'était Tain't Nobody's Business If I Do de Bessie Smith. Alors, à l'aube de la Première Guerre mondiale, on assiste à une libéralisation des coutumes.
C'est dur à dire, ça.
Oui. Des salles de danse, des clubs et des salons de thé ouvrent leurs portes dans les villes et des danses noires telles que le cakewalk et le shimmy sont peu à peu adoptées par public blanc, principalement les jeunes. Ces danses apparaissent tout d'abord lors des spectacles de vaudeville, puis lors de démonstrations de danse dans les clubs. La plupart du temps, la musique de ces danses n'ont rien à voir avec le jazz, mais c'est une musique nouvelle et l'engouement pour cette nouvelle musique explique l'engouement pour une certaine forme de jazz, justement. Des compositeurs tels qu'Irving Berlin s'essayent alors au jazz, mais n'utilisent que rarement cet attribut qui est la seconde nature du jazz, le rythme. Néanmoins, rien ne popularisera plus le jazz que le titre d'Irving Berlin, Alexander Ragtime Band, de 1911, et son succès fut tel qu'on l'entendit jusqu'à Vienne. Eh bien, tu vas nous présenter pas ce morceau-là, mais un morceau plus emblématique également.
Ah ouais, pas du tout. Je n'avais pas.
Tu l'as pas trouvé.
Celui-là, il m'est passé à côté. Ouais. Donc, on va écouter un morceau avec, pareil. Donc, on est sur des cornettistes, hein, avec Bix. Alors, encore un nom très, mais c'est un musicien assez connu de l'époque. Bix Pay Der Beck. Donc c'est un morceau qui s'appelle Jazz Me Blues et l'orchestre s'appelle The Wolverine Orchestra. C'est un morceau emblématique qui capture l'esprit du jazz des années 20 et le génie précoce de Bix. Ça fait partie, comme Louis, des musiciens un peu emblématiques du jazz. Donc c'est un groupe de jeunes musiciens blancs, cette fois-ci du Midwest. Formé en 1924, leur style mêle l'influence du jazz et de la Nouvelle-Orléans et touche aussi un peu plus mélodique, presque on pourrait dire classique, typique de l'école de Chicago. On retrouve du coup Bix au cornet, Jimmy Hartwell à la clarinette et George Johnson à la batterie. Leur approche était plus arrangée, moins improvisée que les groupes de la Nouvelle-Orléans et on annonçait déjà un peu l'ère du swing qui va arriver dans les années 30. Jazz Me Blues est composé par Tom Delaney en 1921. C'est l'un des morceaux à utiliser, un des premiers morceaux à utiliser le terme jazz avec deux Z, comme dans son titre. La version des Wolverines enregistrée en février 1924 est considérée comme l'un des premiers enregistrements jazz blanc influents. Un blues toujours en 12 mesures, parce que le blues est en 12 mesures. Il faudra vous mettre ça dans la tête, le blues est en 12 mesures. Mais avec des harmonies plus sophistiquées et un rythme entraînant typique du jazz hot de l'époque. Donc le morceau s'appelle Jazz Me Blues.
Calade.
Ma radio. Thank you.
C'était Jazz Me Blues. Alors, les autorités décideront la fermeture des cabarets de Storyville, obligeant les musiciens qui s'y produisaient à migrer vers des villes plus accueillantes, notamment Chicago. Au sortir de la Première Guerre mondiale, donc, la grande migration pousse des milliers d'Afro-Américains vers des villes industrielles du Nord. Le jazz sillonne alors le pays, des bordels de Storyville aux clubs privés de Chicago et de Harlem. Année 1920, l'ère du Jazz Age, baptisée ainsi par Scott Fitzgerald, s'installe. Le jazz devient la bande-son d'une Amérique en quête de défoulement. King Oliver, Louis Armstrong et Jerry Roll Morton électrisent les foules. En 1922, Armstrong rejoint le Creole Jazz Band à Chicago, propulsant la trompette au premier plan. On reviendra là-dessus sur la qualité de travail de Louis Armstrong. Là, tu vas nous proposer une voix.
Ouais, une nouvelle chanteuse qui est... Alors, le nom, on le connaît, mais moi, je ne savais pas que Cab Calloway avait une grande sœur qui était chanteuse. Et elle s'appelait Blanche Calloway et elle a enregistré un titre qui s'appelle Lazy Woman Blues avec son orchestre qui s'appelle Blanche Calloway and Her Joyous Boys, les garçons joyeux, en 1925. On est toujours sur le blues, un blues lent et mélancolique où sa voix puissante et expressive brille particulièrement. Blanche Calloway déploie un vibrato contrôlé et des crescendo émotionnels, une technique qui préfigure le style de Billie Holiday ou Sarah Vaughan dans le bebop. Son phrasé est à la fois théâtral et intime, une dualité qu'on retrouve aussi chez des chanteuses comme Ella Fitzgerald. On va écouter Lazy Woman Blues et c'est chanté par Blanche Calloway.
C'était Lazy Woman Blues de Blanche Calloway. Veuillez un peu excuser la qualité du son, toujours. Et nous sommes toujours dans votre émission Cala Jazz. Nous parlons de l'évolution du jazz, de son origine à nos jours. En 1925, premier microphone électromagnétique qui révolutionne l'enregistrement. Il va sublimer la voix de Bessie Smith ou Billie Holiday. Au milieu des années 1920, jusqu'à l'événement du bebop dans les années 1940, on voit l'essor d'un courant musical appelé l'ère des big bands ou la période de middle jazz, le jazz du milieu. Il est surtout caractérisé par le développement des grands orchestres et big bands. Lors des années 1920, la prohibition de la vente de boissons alcoolisées aux États-Unis ferme les bars et les cabarets légaux. Mais ils sont rapidement remplacés par des bars clandestins où les clients viennent boire et écouter de la musique. Les airs que l'on y entend demeurent un mélange de styles, des morceaux de danse à la mode, des chansons récentes, des airs extraits de spectacles. Et là, tu nous as trouvé un morceau d'un orchestre innovant, justement.
Oui, un musicien qui s'appelle Fletcher Anderson. C'est un morceau qui a été écrit en 1927. Enregistré plutôt en 1927, le morceau s'appelle Have It Ready. À New York, pendant la période où Fletcher Anderson dirigeait l'un des orchestres les plus innovants du jazz des années 1920, on retrouve dans l'orchestre Coleman Hawkins au sax ténor. Fletcher Anderson a introduit des sections écrites pour les cuivres et les hanches, alternant avec des solos improvisés. Une structure qui deviendra la norme dans le jazz tout court. Alors, on entend aussi des riffs joués par les cuivres qui annoncent les thèmes puissants de Count Basie ou de Duke Ellington. On va écouter Have It Ready.
C'était Have to Ready. Tu as raison, on sent bien l'évolution de la musique dans cette période.
Et là, on rentre un peu, on sent le début du big band, des orchestres big band. Ouais.
Les premiers développements du jazz subissent l'influence de la ségrégation raciale, qui est alors très forte aux États-Unis. Les innovations apportées principalement par les musiciens noirs des clubs sont enregistrées par des musiciens blancs qui ont tendance à donner au jazz des rythmes et des harmoniques orthodoxes. Eh oui. Voilà. Cette période des années 20, comme tu l'as dit, ça marque la naissance de l'orchestre de Duke Ellington au Cotton Club, ainsi que l'orchestre de Count Basie et bien d'autres. Là, c'est une voix que tu nous présentes.
Oui, une nouvelle chanteuse, Ma, MA, plus loin Rainy. On va écouter un morceau qui s'appelle Walking Blues, qui a été enregistré en 1924. Elle est surnommée la Mother of the Blues, la mère du blues. Elle était accompagnée par des musiciens comme Louis Armstrong ou Buster Bailey, bien que la formation exacte varie selon les sessions. Donc, c'est jamais les mêmes musiciens qu'on peut entendre dans les titres qu'elle a enregistrés. On va écouter encore un blues lent et puissant, typique du style de Ma Rainey, où la voix est au centre, soutenue par une section rythmique simple mais efficace. Toujours un blues, toujours en 12 mesures. Un parfait exemple de la façon dont le blues a influencé le jazz.
Calade.
Ma radio.
C'était Walking Blues. Alors, tout à l'heure, je parlais de King Oliver, qui est le chef d'un premier orchestre important, le Creole Jazz Band, dont fera partie Louis Armstrong, et Jerry Roll Morton, qui a su transformer la musique de ragtime en jazz et a enregistré des chefs-d'œuvre avec ses Red Hot Peppers, qui comprenaient alors les meilleurs musiciens de Chicago. Lors des quelques enregistrements spécifiquement destinés au public noir, Louis Armstrong amène une première évolution décisive du jazz. Il joue avec un orchestre typique de Nouvelle-Orléans, ces orchestres où tous les musiciens improvisent simultanément. Mais Louis est un improvisateur hors pair, capable de créer des variations infinies à partir d'un même thème. Ses musiciens l'imitent, non plus tous en même temps, mais chacun leur tour. C'est ainsi que le jazz devient une forme de musique en solo. Et là, tu vas justement nous proposer un morceau de Jelly Roll Morton.
Oui, Jelly Roll Morton, qui se dit l'inventeur du jazz, je crois.
Peut-être pas exagéré.
Mais je crois qu'il se dit l'inventeur du jazz, quoi qu'il arrive. Donc, c'est le morceau s'appelle Black Bottom Stomp, enregistré par le groupe, comme tu as dit, Red Hot Peppers. Morton y déploie une forme d'arrangement écrite, rare pour l'époque, tout en gardant l'énergie du jazz de la Nouvelle-Orléans. Le morceau alterne entre thème collectif et solo improvisé, une recette qui deviendra la norme dans le jazz moderne. Morton disait que c'était que ce morceau était le vrai jazz, car il combinait structure et liberté. Il l'a enregistré après avoir expliqué ses théories musicales à Alan Lomax. Alan Lomax, en fait, c'est un gars qui a tourné partout avec un petit microphone et qui a enregistré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et qui a créé ce qu'on appelle la Library of Congress, où il y a plein de sons musicaux dans les années 20 et les années 10. Et prouvant qu'il était bien plus qu'un, je parle de Jelly Roland, qu'il est bien plus qu'un simple pianiste, il était aussi un visionnaire. Donc on va écouter Black Button Stomp.
C'était Black Button Stomp de Jerry Roll Morton. Communément, on associe l'introduction de cette musique syncopée à l'arrivée sur les côtes françaises en décembre 1917 avec le 369e régiment d'infanterie dans lequel se trouvaient les Harlem Highfighters, des musiciens noirs dirigés par James Rhys Europe. Et c'est à Nantes, le 12 février 1918, que les Harlem Highfighters ont donné au théâtre Graslin le premier concert officiel de jazz en Europe. Dans la capitale, on raffole des jazz bands. Ils jouent dans les cabarets, ce qu'on surnomme alors le Montmartre Noir. La Revue Nègre avec Joséphine Baker fait fureur au théâtre des Champs-Élysées en 1925. Les premiers disques de Duke Ellington arrivent. La perception des Noirs n'est plus la même. Jazz est un mot qui fait rêver. Il est attaché à l'idée de déconnade, de vie, de dynamisme, de rapidité. C'est lié au modernisme de l'époque, aux machines. On sort de la guerre de 14. Après 4 ans de boucherie, on veut ouvrir les fenêtres, s'éclater. Le jazz gagne aussi le reste de l'Europe, que les orchestres militaires américains préfèrent découvrir plutôt que de rentrer au pays. Ils vont dans les pays de l'Est où ils puisent dans le Kremser, en Scandinavie, en Russie, où se produit aussi Sidney Bechet en 1926. Eh bien, ça tombe bien, parce que tu vas nous présenter un morceau interprété par un Français.
Oui, par un Français, un monsieur qui s'appelle André Équian, qui est né en 1907 et qui est mort en 1972, c'est un saxophoniste altiste français et l'un des premiers à adopter le style du jazz américain en France. Et bah, j'ai écrit deux fois la même chose. Il enregistre Dina à 21 ans. Dina, c'est un morceau assez connu. Hein. C'est un standard de jazz qui a été aussi repris par un gars qu'on connaît bien chez nous qui s'appelle Duke Ellington. Qu'est-ce que je dis Django Reinhardt, bien sûr. Du coup, ça a été enregistré en 1928. Dina.
C'était Dina, mais malheureusement nous arrivons à la fin de notre émission et nous continuerons cette aventure jazz dans d'autres émissions. Merci chères auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez nous réécouter le dimanche midi et le jeudi à 19h et bien sûr en podcast sur le site Radio Calade. Alors nous nous quittons sur un dernier morceau, Julien.
Ouais, alors le morceau un peu emblématique de l'époque, c'est un morceau qui s'appelle West End Blues de Joe King Oliver. Et là, il s'est interprété par Louis Armstrong and his Hot Five. Vraiment le groupe de Louis Armstrong qui arrive. Ça a été enregistré en 1928. Le solo d'ouverture d'Armstrong a changé l'histoire du jazz. C'est vraiment le gros morceau qu'on entend bien. C'est l'un des premiers grands exemples d'improvisation virtuose en studio. On retrouve Louis Armstrong à la trompette, bien sûr, Earl Hines au piano, Fred Robinson à la trombone, Jimmy Strong à la clarinette, Mansi Carrera au banjo, C.T. Clinton à la batterie et quelqu'un dont on a parlé il y a quelques temps, Pop Foster à la contrebasse. Clairement, contrairement aux enregistrements de l'époque, Armstrong laisse une grande place à l'improvisation et on va voir tous les musiciens briller.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Wa ba 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 ba